le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, 10e numéro du temps d'une chanson. Pour ce dernier numéro de la saison, nous allons traverser le temps et nous plonger dans l'ambiance des années 1969 et 1984. Juin 1969. La gauche divisée et éliminée au premier tour de la présidentielle, Georges Pompidou est interrogé par Jacqueline Baudrier avant le deuxième tour.
Monsieur Georges Pompidou, vous voici face à la bataille décisive de l'élection présidentielle. Vous allez affronter ce second tour avec l'appui de 10 millions de Français et de Françaises qui vous ont fait confiance au premier tour. En les remerciant dimanche soir, ces électeurs et ces électrices, vous avez dit que près d'un Français sur deux vous avez apporté sa voix. Mais maintenant, il vous reste le plus difficile à faire. Il va vous falloir convaincre plus d'un Français sur deux. Alors, qu'allez-vous leur dire à ces Français-là pendant cette bataille du second tour de la présidentielle ?
Eh bien, écoutez, madame, au premier tour, vous savez, les candidats sont nombreux. Et automatiquement, les voix se dispersent, chacun suivant un petit peu ses affinités politiques ou même son goût pour telle ou telle personnalité. Au second tour, c'est un choix entre deux candidats. Et cette fois-ci, il me semble que le choix est particulièrement clair, puisque je pars avec une avance de voix considérable et que d'ailleurs, les Français, dans leur ensemble, me paraissent avoir marqué leur volonté d'aller vers l'avenir et non pas de retourner vers le passé. Alors le problème pour moi, c'est de les convaincre que le chef de l'État doit avoir une majorité massive afin de bénéficier d'une autorité suffisante. Autorité à l'extérieur pour représenter la France et les intérêts des Français, autorité à l'intérieur pour faire face aux difficultés de tous ordres qui sont le lot de tous les gouvernements.
Vous avez parlé d'une autorité massive, mais vous savez qu'un des faits caractéristiques et exceptionnel... Oui, d'une majorité massive, mais vous savez bien qu'un des faits exceptionnels de ce second tour, c'est l'abstention que le Parti communiste recommande aux électeurs qui ont voté pour M. Jacques Duclos, aux 21% d'électeurs qui ont voté pour M. Jacques Duclos. Est-ce que vous ne craignez pas que ces abstentionnistes politiques, s'ajoutant aux abstentionnistes traditionnels, ne diminuent votre autorité si vous étiez élu ?
Eh bien, je crois justement que c'est le devoir d'abord de tous les électeurs qui ne sont pas communistes d'éviter à tout prix de s'abstenir. Car s'abstenir, pour eux, cette fois-ci, ça sera mêler leur voix à ceux du Parti communiste et surtout, je dirais, permettre au Parti communiste de se les attribuer, alors qu'elles ne le seraient point du tout. Je crois d'ailleurs aussi que beaucoup d'électeurs qui votent, qui ont pu voter pour M. Jacques Duclos, parce que son programme les séduisait, beaucoup de ces électeurs se rendront compte de la nécessité qui s'impose à un citoyen, quel qu'il soit, de faire son devoir et de choisir. Et je ne vois vraiment pas pourquoi, dans ce choix, beaucoup de ces milieux ouvriers ou petits paysans ou autres ne choisiraient pas ce que je représente, c'est-à-dire naturellement le progrès économique et le progrès social aussi bien que la dignité de tous les Français.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
Oh Lady Mary, chantée par David Alexander Winter, est une chanson que l'on pouvait entendre en 1969.
Oh
Oh Lady Mary est l'adaptation en français de la chanson Saman Yolu, écrite par l'auteur-compositeur turc Metin Büke et interprétée par le chanteur Berkan en 1967. Elle est adaptée en français en 1968 par Patricia Carli et Léo Missir, avec la version la plus populaire interprétée par David Alexandre Winter, que l'on vient d'entendre, sortie en Super 45 tours et parue sur son album éponyme en 1968 et sortie en 45 tours simple en 1969. Juin 1969. Élection présidentielle. Georges Pompidou est élu avec 58,2% des suffrages contre 41,8% pour Alain Poher. Toujours en juin, le 20, investiture de Georges Pompidou. Sa présidence est marquée par un volontarisme étatique où l'État développe avec succès une politique de modernisation industrielle. Jacques Chaban-Delmas est nommé Premier ministre. Il forme un nouveau gouvernement. Valéry Giscard d'Estaing revient aux finances. Achille Peretti est élu président de l'Assemblée nationale. Le Métèque est une chanson française écrite, composée et créée par Georges Moustaki en 1969.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Le métèque est paru sur l'album du même nom et en single. Cette chanson l'a fait connaître du grand public, plus de 600 000 exemplaires vendus en 45 tours, même s'il était déjà reconnu dans le milieu de la chanson comme parolier et musicien. Je parle bien évidemment de Georges Moustaki. La chanson est un portrait partiellement autobiographique d'un étranger, un peu doux, rêveur, sans attache. Moustaki, d'origine grecque, se décrit lui-même comme un métèque, fustigeant aussi un terme utilisé pour désigner les étrangers, un juif errant, pâtre grec, aux cheveux, aux quatre vents. La chanson a été traduite dans plusieurs langues. En particulier, la version italienne par Bruno Lozzi a atteint la première place du hit-parade italien. Le titre a été publié en single pour la première fois en 1969 dans les 45 tours Lo Straniero Giuseppe avec l'arrangement d'Alain Goraguer. La même année, la chanson remporte la Mostra Internazionale di Musica Leggera Gondola d'Oro à Venise. Pia Colombo, avant sa sortie au format Studio 45 en 1969, avait créé une version en public de la chanson. Alpha Blondy a fait une reprise de la chanson sur son album Mystic Power en 2013. Renaud la reprend sur son disque Metech en 2022. Georges Moustaki, né Giuseppe Moustaki ou Youssef Moustaki le 3 mai 1934 à Alexandrie en Égypte, est mort le 23 mai 2013 à Nice, est un auteur, compositeur, interprète d'origine italo-grecque naturalisé français en 1985. Il est aussi artiste, peintre, écrivain et acteur. Né en Égypte de parents grecs, de religion juive, romagnote et de langue italienne, originaire de l'île de Corfou, il grandit dans un environnement multiculturel, juif, albanais, turc, italien, arabe, français, et se passionne vite pour la littérature et la chanson française. Né à Alexandrie d'une famille juive, grecque, mais de langue italienne, baptisé Giuseppe par ses parents, inscrit à l'état civil égyptien sous le nom de Youssef, appelé à l'école française Joseph, puis Joe, un diminutif qui a fait croire, lorsqu'il est arrivé en France, qu'il s'appelait Georges, ce qu'il a laissé faire par admiration pour Brassens. Il symbolise par cette simple succession de prénoms l'univers méditerranéen. Il y avait à Alexandrie une très grande famille Moustaki. Son père, libraire francophone, l'inscrit ainsi que ses deux sœurs Elisabeth et Marcel au lycée français d'Alexandrie. Georges vient en 1951 à Paris où il s'installe chez Marcel et son époux, le poète Jean-Pierre René, lui aussi libraire, et pour qui il fait du porte-à-porte en vendant des livres de poésie. Il exerce par la suite la profession de journaliste, puis de barman dans un piano-bar, ce qui l'amène à fréquenter des personnalités du monde musical de l'époque, notamment dans le haut lieu de la vie intellectuelle et culturelle parisienne, le quartier Saint-Germain-des-Prés. Il entend ainsi Georges Brassens se produire un soir, c'est pour lui une révélation. Il n'aura de cesse par la suite de faire référence à ce maître, allant jusqu'à adopter son prénom en guise de pseudonyme. Ils s'entendent très bien et Brassens lui prodigue des conseils. En 1958, le guitariste Henri Crolla lui présente Édith Piaf, pour laquelle il écrit quelque temps plus tard une de ses chansons les plus connues, Milord, et avec qui il connaîtra une courte et fougueuse liaison d'un an. C'est lui qui présente Georges Brassens à Édith Piaf, quelque peu hermétique au chanteur soliste qui s'accompagne à la guitare, dit rive gauche. Elle incite Moustaki, d'ailleurs, à sortir de ce mouvement. Tout au long des années 60, Moustaki se positionne comme un compositeur et parolier pour les grands noms de la chanson française comme Yves Montand, Barbara et Serge Reggiani, avec qui il se lie d'amitié. Sa différence d'âge avec Piaf de 18 ans, son aîné, lui inspire Sarah, qui sera tout d'abord interprétée par Reggiani avant que lui-même ne l'enregistre à son tour avec son aval. Il crée alors des chansons qui resteront parmi ses plus grands succès, « Ma solitude »,« Joseph » et « Ma liberté » ou encore « La dame brune » qu'il interprète alors en duo avec Barbara. Sa devise, tirée d'un écrit d'Antoine Blondin, est « L'homme descend du songe ». En janvier 1970, il fait son premier grand concert en vedette à Bobino. On découvre alors un artiste qui privilégie une ambiance chaleureuse de proximité avec son public. Grand amateur de guitare, son instrument de prédilection, auquel il rend hommage dans plusieurs de ses chansons, il noue des liens d'amitié avec le guitariste virtuose Alexandre Lagoya, comme lui, né à Alexandrie et d'origine familiale gréco-italienne. Juillet 1984. 12 juillet, le président Mitterrand demande au gouvernement de retirer son projet sur l'enseignement privé. 13 juillet, inauguration du musée de la Révolution française à Vizil. Loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, loi Avis. Démission d'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, puis de tout le gouvernement Mauroy, le 17 juillet 1984. Toujours en juillet, loi sur la carte de séjour de 10 ans pour les étrangers. Un nouveau gouvernement est nommé le 18 juillet 1984, c'est le gouvernement de Laurent Fabius. Il ne comporte pas de ministre communiste. Le 19 juillet, Jacques Delors est nommé président de la Commission européenne.
J'apprends à l'instant qu'un avion militaire français transportant les trois militants basques a décollé il y a 5 minutes exactement à destination de Madrid. Monsieur Fabius, vous avez pris part bien sûr de façon déterminante à cette décision d'extradition qui constitue un revirement spectaculaire de la politique française. Est-ce que cela signifie désormais que pour les Basques, comme pour d'autres extrémistes, quelle que soit leur coloration politique, la France devient désormais terre interdite?
Ça signifie que nous ne voulons pas que la France serve de sanctuaire pour des crimes de sang. Je vais vous expliquer, Madame Ockrent, le problème qui s'est posé au gouvernement et à moi comme Premier ministre. Et pour vous l'expliquer, j'ai apporté avec moi les motifs d'inculpation d'un des trois extradés. Il y en a trois, et j'ai apporté les motifs d'inculpation d'un des trois, qui s'appelle Monsieur Martinez Bestegui. Alors, ça va prendre quelques secondes, mais je crois que c'est important pour juger. Monsieur Bestegui est d'abord inculpé pour avoir attaqué une sentinelle de la caserne de Vitoria, en Espagne. La sentinelle a pu s'abriter, mais une personne âgée de 68 ans a été tuée. Il est également accusé de crimes de sang concernant la police. Les faits qui lui sont reprochés sont exactement les suivants. Le commissariat de Vitoria a reçu deux appels téléphoniques dans lesquels il était indiqué qu'un homme était attaché à un arbre non loin de Vitoria. La police espagnole est arrivée sur les lieux. Un policier a voulu ramasser une paire de lunettes qui était par terre. Il pensait que cette paire de lunettes appartenait à l'homme qui était attaché. Mais la paire de lunettes était reliée à une charge explosive par des fils électriques. Lorsque le policier a voulu la ramasser, tout a explosé.
Septembre 1984, le PCF quitte la majorité. Puis le 19 septembre, c'est la présentation à la presse de la Renault Super 5. Le 22 septembre, c'est la poignée de main de François Mitterrand et Helmut Kohl à Douaumont. Toute première fois est une chanson française de 1984 interprétée par Jeanne Masse, parue sur son premier album Jeanne Masse. Elle est sortie en février 1984 en tant que premier single de l'album. Premier grand succès de la chanteuse, toute première fois se classe numéro 8 au top 50. Toute première fois a d'abord été enregistrée en langue italienne, Cuoro di Vento, et sa composition remonterait à 1980. Jeanne Masse résidait à l'époque en Italie. Elle décide d'écrire un texte en français et de présenter la chanson aux maisons de disques françaises. Finalement, après de nombreux refus, Pathé Marconi fera signer Jeanne Masse. Le 45 tours sortira le 13 février 1984 et sera un grand succès tout au long de cette année, dépassant les 800 000 exemplaires vendus, toute première fois et donc son plus gros succès, ses ventes dépassant sensiblement celles de Johnny Johnny et de En rouge et noir. Jeanne Masse est une auteure, compositrice, interprète, écrivaine, actrice, franco-américaine, née le 28 février 1958 à Alicante, en Espagne. Elle a enregistré 20 albums studio et un seul album live. Née en Espagne, elle passe son enfance entre Garches et Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Elle connaît une enfance difficile. À 18 ans, Jeanne Masse s'inscrit à l'université Paris 10 Nanterre pour y étudier l'espagnol et l'italien et suit parallèlement des cours de danse, de chant et de piano. C'est en 1984 que Jeanne Masse connaît vraiment le succès en France grâce à son titre « Toute première fois » dont elle écrit les paroles. Elle est d'ailleurs auteure de tous les textes de ses chansons. La chanteuse va ensuite enchaîner les tubes tout au long des années 80, dont « Johnny Johnny » en 1985. Classé numéro 1 au top 50, ce single suit de peu la sortie de son premier album Jeanne Masse, dont elle signe tous les textes. Romano Muzumara en est le principal compositeur. Jeanne Masse collabore également avec Daniel Balavoine et Andy Scott, qui se chargent de la réalisation artistique de deux titres, le tube Cœur en stéréo et Oh Mama. Elle est la première artiste à être simultanément en tête du top 50 et du top album en juillet 1986. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite d'excellentes vacances. N'oubliez pas d'écouter les podcasts de l'émission sur la plage ou ailleurs. Je vous donne rendez-vous en octobre pour une nouvelle série d'émissions Le temps d'une chanson.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.